Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Bienvenue, chers compagnons, sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Dans chaque épisode, nous étudions l'actualité de notre mouvement ou du cloud en général. Puis, nous débattons sur un sujet de fond. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti! Alors aujourd'hui, je suis à nouveau avec Erwan et Damir. Et aujourd'hui, on va vous parler de veille et de formation, comment se tenir à jour. C'est une question qu'on nous a posée sur le forum et on va aborder ça. Et je vais laisser Erwan et Damir se présenter à nouveau pour les gens qui ne les connaissent pas. Erwan, est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes ?
Erwan, je travaille pour une petite start-up où je m'occupe de l'infrastructure et ça fait à peu près un peu plus de 10 ans que je travaille en tant que sysadmin et dans la mouvance DevOps.
Du coup, moi, Damir, je suis passionné d'open source, de logiciel libre et actuellement, je vais de mission en mission pour aider des clients de mon entreprise à aller dans le cloud et surtout à passer aux méthodologies DevOps.
Et moi, c'est Christophe, je fais partie du collectif de freelance Lydra et on aide les entreprises du numérique à déployer leurs applications web sans couper leurs services et aussi à faire des transitions DevOps en les coachant ou en les mentorant. Alors aujourd'hui, on a quelques petites actus qui nous attendent et c'est moi qui m'y colle pour la première. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps, on a parlé du rachat de Docker l'année dernière. Puisque Mirantis a racheté Docker et il n'y a pas plus tard que quelques jours, Mirantis a fait une annonce. Mirantis a annoncé en fait le maintien du support de Docker Swarm sans date définitive. Ça veut dire qu'en gros, ils mettent plus fin au support de Docker Swarm. Et en fait, l'an dernier, quand ils ont racheté Docker Enterprise, Mirantis avait annoncé qu'en fait le produit Docker Swarm allait être maintenu seulement 2 ans. Et en fait, en discutant avec leurs clients, Mirantis s'est aperçu qu'en fait, les clients voulaient un support sans fin de vie. Et du coup, Mirantis s'est un peu plié au désir de ses clients. Je pense qu'il y a vu un intérêt. Et en fait, dans cette annonce, ils nous disent aussi qu'ils aimeraient faire évoluer Docker Swarm pour prendre en compte les retours clients. Mirantis a aussi l'ambition de simplifier l'utilisation des conteneurs en entreprise tout en laissant en fait le choix à leurs clients de l'orchestrateur. Donc Mirantis a récemment lancé Swarm Job qui va pouvoir gérer les jobs et travaille aussi sur une solution de volume persistant distribué sous forme de plugin lié au Container Storage Interface, excusez-moi. Alors moi je suis allé un peu gratter parce que les annonces c'est bien, mais alors je suis allé sur le dépôt GitHub de Docker Swarm. Et alors j'ai été surpris de voir aucun commit depuis le 5 septembre 2019 et j'ai remarqué que la dernière version en cours c'était la version 1.2.9 qui date du 6 juin 2018. Alors ça c'est la version Docker, c'est le dépôt Docker Swarm de Docker. J'ai pas vu de dépôt Docker Swarm chez l'organisation Mirantis, alors je sais pas si le code est ouvert. Et c'est là où justement je vais vous poser la question tous les deux. Est-ce que d'abord, qu'est-ce que vous pensez de cette annonce? Et est-ce que vous savez si le logiciel est encore open source, libre, ou s'il est carrément fermé? Erwan, peut-être?
Oui, alors moi je connais pas très bien Swarm, mais etc. Mais par contre, ce qui est surprenant, c'est que dans la news que tu dis, c'est que c'est pas seulement il prévoit de le maintenir, c'est que visiblement ils envisagent même des évolutions. Et du coup, je trouve ça assez étonnant par rapport à, justement, à l'historique, au rachat, etc. Je pensais que ça allait mourir tranquillement et que ça allait juste être maintenu en mode best effort.
Ouais, alors moi, c'est vrai que, bah, déjà, je sais pas si le produit est maintenu en open source ou pas. Ça, j'avoue que j'ai pas d'infos. Après, pour la news en elle-même, ça m'étonne un peu. Je trouve ça un peu utopiste de penser qu'un produit n'aura jamais de fin de vie. Faut arrêter de, je pense, de se leurrer là-dessus. Il y a une fin de vie, il y a un cycle de vie d'une application. C'est normal, c'est la vie, hein. Donc là-dessus, je trouve ça un peu utopiste. Et après, c'est vrai que ça m'étonne un peu. Parce qu'on voit tous la place qu'a pris Kubernetes aujourd'hui. Et je vais dire une chose que, une situation qui me plaît pas beaucoup, mais qui est la réalité, c'est que pour moi, en fait, aujourd'hui, bah, de facto, Kubernetes, c'est devenu un standard, en fait. Vous allez chez AWS, vous allez chez OVH, sur Scaleway, sur Google Cloud, bah, si vous êtes sur du Kubernetes, vous allez retrouver du Kubernetes Manager sur tous ces fournisseurs cloud. Donc, c'est devenu vraiment, pour moi, le standard de beaucoup d'entreprises. Donc, je trouve ça un peu bizarre qu'il y ait quelque chose qui soit misé sur Docker Swarm qui, même s'il a des qualités, a malheureusement été vraiment écrasé par cette mouvance Kubernetes, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Là, je suis pas là pour discuter de ça, mais voilà. Donc ça, je trouve ça un peu étrange. Et je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner et de voir surtout si ça va prendre côté, bah, côté client, côté tech.
Alors moi aussi, je suis assez étonné. Après, je me demande si Mirantis joue pas un coup parce que le rachat de Docker, le rachat de Docker Enterprise, ça a été une chose. Et je me demande s'ils veulent pas faire encore parler du produit et attirer des nouveaux clients. Moi non plus, jamais vraiment essayé Docker Swarm. En fait, non, j'ai jamais du tout essayé Docker Swarm. J'ai fait que du Kubernetes et de l'OpenShift. Du coup, moi aussi, ça m'étonne parce que Docker Swarm n'a pas non plus la réputation d'être un produit aussi efficace que Kubernetes. Et il y a d'autres alternatives en plus en face qui ont l'air un peu plus abouties. Moi, j'entends beaucoup parler de HashiCorp Nomad. Donc, je reste perplexe. Je reste d'autant plus perplexe que, du coup, sur leur site, j'ai pas trouvé de lien sur Docker Swarm ou autre. Et sur les dépôts GitHub, j'ai rien trouvé. Alors, j'en ai aucune idée de comment est-ce qu'on se fournit Docker Swarm du coup aujourd'hui et comment est-ce qu'on va l'installer sur les serveurs. Bon, c'est affaire à suivre en tout cas. On va continuer à parler de conteneurs et de Docker parce que les conteneurs, c'est assez intéressant. Mais Erwan va nous parler d'une autre petite news, une news un peu plus réseau pour le coup.
Une news un peu plus réseau est liée donc à Firefox, puisque il y a peu, dans la version 73.01, l'option par défaut du DNS, enfin l'option DNS via HTTPS a été activée par défaut pour tous les utilisateurs aux US. Alors, qu'est-ce que c'est que le DNS via HTTPS? Bah, alors, déjà, le DNS, c'est le fameux protocole qui est indispensable pour que fonctionnent bien les internets, qui permettent de faire une résolution de nom pour savoir à partir d'un nom de domaine, à quel serveur ou en tout cas IP s'est associé. Et en fait, un des sujets, c'est que ces requêtes passent nativement en clair sur le réseau. Donc, quelqu'un qui snifferait votre réseau pouvait savoir, en tout cas, sans forcément savoir à quel site vous accédez, en tout cas, il pouvait savoir à quelle résolution de nom vous lanciez. Et donc, du coup, le fait d'avoir du DNS via HTTPS fait que, de bout en bout, la résolution de nom se fait de façon chiffrée. Alors, pourquoi Mozilla a activé ça par défaut? C'est que ils ont annoncé que 2020, leur mantra, c'était la protection de la vie privée. Et donc, du coup, forcément, bah, si on arrive à cacher ce genre d'infos, ou en tout cas à chiffrer ce genre d'infos, bah, on protège un petit peu, un petit peu plus la vie privée. Pour que ce système fonctionne, c'est pas magique. Qu'il faut des services tiers avec qui votre navigateur puisse faire cette résolution de nom. Donc les services tiers qui sont actuellement disponibles dans Firefox sont hébergés par Cloudflare et NextDNS. Et a priori, de ce que j'ai compris, d'autres providers sont prévus dans l'année qui arrive. Pourquoi ces deux providers fonctionnent? C'est parce qu'en gros, ils ont signé une espèce de charte avec Mozilla un peu avancée sur justement les traces qu'ils gardaient, sur un engagement de ne pas revendre des informations sur le fait que telle IP a cherché à savoir la résolution de nom de tel domaine, qui est une information qui peut avoir de la valeur pour de la pub ou autre. Et donc du coup, c'est un acte assez fort. Alors, si le fait de chiffrer de bout en bout comme ça la résolution de nom est intéressante, il y a quand même des questions qui se posent autour du filtrage, typiquement le contrôle parental. Comment ça peut plus vraiment fonctionner, votre box, elle peut plus vraiment bloquer ce type d'accès, puisque du coup la box ne voit pas la requête passer, donc elle ne peut pas couper la résolution de nom. Et du coup, il y a certaines institutions qui sont pas forcément pour ça, puisque le contrôle des flux serait plus compliqué. Pour finir cette petite news, il faut savoir que cette option donc du ce qu'on appelle le DOH est aussi disponible dans Chrome, et c'est juste qu'elle n'est pas activée par défaut. Et pour les utilisateurs non américains qui utilisent Firefox, on peut aussi l'activer de façon explicite, manuellement, dans vos options. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi personnellement, j'utilise cette option sur mon Firefox. Et qu'est-ce que toi, Damir, tu penses de d'avoir cette option par défaut dans Firefox?
Alors, je pense que c'est une bonne chose qu'on commence un peu à s'intéresser aussi, pas que à la protection des données en soi, mais des métadonnées. On a vu ces derniers temps qu'au final, une métadonnée, un ensemble de métadonnées peut en apprendre énormément sur une personne, voire autant que la donnée. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose. Après, j'avoue être un peu dubitatif sur la manière dont ça a été fait. Un peu activé par défaut, sur un fournisseur par défaut, je dois avouer que ça me gêne un petit peu de ce côté-là, surtout une entreprise américaine comme Cloudflare. Après, bon, c'est toujours mieux de confier les données, de confier les données à une entreprise que les laisser à tout va. Donc pourquoi pas, mais c'est vrai que ça me laisse un peu dubitatif sur l'idée. Mais je pense finalement que cette techno, c'est une techno qui est importante, qu'il faut aujourd'hui utiliser, hein, parce que c'est un peu le vrai moyen de chiffrer cette partie-là. Mais ça nécessite aussi, du coup, comme je le disais, de confier en fait du coup toutes ces infos à un fournisseur tiers ou de l'héberger soi-même. Mais en tout cas, ça nécessite de faire confiance dans tous les cas à quelqu'un. Donc dans tous les cas, voilà, il faut savoir où on la gère et où on la déporte. Mais la techno en soi est intéressante, je pense, et a de l'avenir là-dessus. Toi, du coup, Christophe, t'en penses quoi?
Alors, je pense que c'est une bonne chose. En effet, technologiquement parlant, ça me plaît énormément, parce que, comme l'a dit Erwan, en fait, ça nous encapsule dans un tunnel chiffré, et du coup, en effet, les métadonnées sont protégées. Comme toi, je pense que le fait que ce soit un fournisseur par défaut, et il faudrait que j'aille gratter pour voir si on peut pas le changer, c'est un peu gênant, parce que du coup, tu peux pas choisir ton fournisseur DNS qui te plaît. Moi, c'est vrai que j'avais essayé Cloudflare et j'en étais plutôt content. En tout cas, beaucoup, beaucoup mieux que celui de Google. Et ça me fait dire qu'il faut vraiment que j'utilise Firefox comme navigateur par défaut, parce que pour l'instant, j'utilise Chromium, et même s'il est libre, Firefox apporte quand même beaucoup, beaucoup de choses. En tout cas, tout ce qui est chiffrement, moi, à chaque fois, je suis assez convaincu, et je suis assez preneur pour utiliser ces fonctionnalités. Et toi, Erwan, finalement, qu'est-ce que t'en penses ?
Ah bah moi je l'ai activé, donc j'en pense que du bien. Après je suis d'accord sur la remarque de Damien sur à qui on fournit finalement l'information de la résolution de nom. Mais en vrai, aujourd'hui c'est une information qu'on qu'on peut maîtriser, mais pas forcément, enfin pas forcément pour le grand public, c'est pas forcément le cas. Et du coup, le fait d'avoir des partenaires qui s'engagent sur tout un tas de choses, sur la traçabilité et sur le fait de pas revendre ces données, etc. C'est des papiers signés, mais j'ai envie d'y croire, et je me dis que du coup pour les personnes qui sont moins à l'aise techniquement pour gérer justement ces questions de DNS, bah c'est peut-être pas plus mal. Ce qui m'a fait rire, c'est de voir que pas mal d'institutions étatiques mettent en garde sur ce système en mettant en avant le fait que attention, le contrôle parental ne pourra plus marcher, etc. Mais en vrai, la raison qui est évidente, c'est tous les sujets de censure qui seront plus forcément aussi faciles, quoi.
J'ai deux dernières questions pour toi. La première, est-ce que tu as constaté un ralentissement de ta navigation? Et la deuxième, est-ce que tu as entendu parler d'une solution de même type pour mettre sur nos serveurs?
Pas du tout. Alors au niveau de la rapidité, en tout cas moi, il y a rien eu de choquant dans mon usage quotidien. J'ai envie de dire que tout va bien là-dessus. Et pour les serveurs, non, effectivement, j'ai pas regardé.
C'est pas un souci. Puisqu'on est en train de parler de données et de protection des métadonnées, Davir, je crois que c'est vraiment la transition parfaite pour toi. Tu vas nous parler de quelque chose qui est en rapport avec des données et d'énormément de données.
Alors oui, alors comme vous savez, moi je suis habitué aux super news un peu réjouissantes, de bonnes nouvelles entre guillemets. Non, je pense que voilà, je suis un peu orienté sur les petits drames, on va dire. Et là, effectivement, on a eu un nouveau drame au niveau de la donnée, donc qui touche une entreprise que je pense vous connaissez tous, qui est tout simplement Decathlon. Donc, si vous connaissez pas, grande entreprise française qui vend des équipements sportifs, et ils ont été confrontés à une grosse fuite de données du coup aujourd'hui, cette fin de février. Donc, ils ont eu une base de données de 9 gigas qui était accessible à l'extérieur, et du coup, des informations fuitées. Donc, parmi ces informations, on a quand même des choses assez sensibles, donc des mots de passe, des numéros de sécurité sociale, des numéros de téléphone, des dates de naissance, des adresses mail et postales. Donc on peut imaginer déjà de belles choses avec ça, et sans parler des phishing très poussés. Mais là où c'est intéressant, bon, déjà Decathlon a démenti qu'il s'agissait de données clientes et il s'agirait uniquement de données d'employés, mais ça reste quand même très grave comme fuite de données. Mais je pense que là où c'est intéressant, c'est on sait que toutes ces fuites arrivent. On a déjà eu le cas il n'y a pas très longtemps avec l'université de Toulouse, qui a eu un problème très similaire, et les petites affaires comme ça sont assez, assez régulières. Et ce qui est intéressant, c'est toujours de voir que la cause est généralement la même. Il s'agissait d'un défaut de configuration sur un serveur qui était du coup ouvert au public, et c'est une entreprise du coup qui s'en est rendu compte et qui a informé Decathlon. Donc l'entreprise, c'est VPN Mentor, qui a prévenu Decathlon et Decathlon a réagi immédiatement. Donc ça, c'est déjà une bonne chose, je pense, c'est que Decathlon a communiqué et ils ont fermé le problème immédiatement. Ils ont été très réactifs, et on oublie tout le temps, mais là, c'est sécurité, c'est aussi ça, c'est être réactif, c'est parce qu'on aura forcément un incident à un moment, mais il faut être réactif dessus, donc ça c'est quand même une bonne chose. Ensuite, ce qui est intéressant, on va te voir, c'est que finalement, personne n'est à l'abri de ça. On en a eu chez Decathlon, on a eu à l'université de Toulouse, on en avait eu chez les filières d'Accor Hôtel, on avait eu vraiment sur beaucoup de choses. Et là, ça ramène un peu une question que je me pose, c'est je me dis, est-ce que la réponse à tout ça, c'est pas aussi un peu, du coup, dans le DevOps, de faire de l'automatisation de ces choses-là, empêcher une action manuelle qui pourrait avoir un effet de bord aussi grave, entre guillemets, pour l'entreprise? Et est-ce qu'il n'y a pas vraiment un travail à faire là-dessus? Parce que l'humain fera des erreurs, ça c'est inhérent à l'humain, mais il faudrait, je pense, racheter des contrôles. Alors je sais pas ce que vous en pensez, par exemple, toi Christophe, t'en penses quoi de cette idée?
Sur l'idée de racheter des contrôles ou sur l'idée de la news en elle-même?
Ah, allez, les deux, soyons fous.
Alors, la news en elle-même. Moi, je fais partie des gens qui pensent que la meilleure protection pour la donnée, c'est en fait de ne capter que la donnée qui est nécessaire et de ne garder que la durée qui est nécessaire et pas surcapter de la donnée et surstocker de la donnée. Déjà, dans un premier temps, c'est plutôt une bonne chose. Après, je reste assez perplexe sur le fait que d'après ce que tu as dit, Decathlon se dédouane un peu en disant que c'est des données d'employés, mais ça reste pour moi des données personnelles, même si c'est pas des données clients, c'est des données personnelles. et acheter des prestations finalement d'audit, ouais, je pense que c'est une bonne chose, surtout quand on est à des entreprises comme ça qui brassent autant de volume de données. Faire appel à des sociétés spécialisées dans la sécurité, c'est peut-être une bonne chose. En tout cas, chez certains de mes clients, c'est ce qu'ils font. Ils achètent des audits et à chaque fois qu'on a des audits, on a des failles de sécurité qu'on corrige avant même de passer en production les applications ou les infrastructures. Donc je... Vas-y.
Là, ouais. Là, juste si je peux rebondir. Pour les données, c'est vrai que, comme tu disais, pas collecter de données, entre guillemets, surnécessaires. Mais là, effectivement, comme tu le disais aussi, c'est des données d'employés. Donc, c'est des, je pense que c'est des données RH qui sont obligées d'avoir, hein, comme tous les ressources humaines. Donc, c'est malheureusement des données obligatoires. Après, c'est, quand je disais, je parlais pas forcément d'aller jusqu'au pentest, mais rien que de prévoir vraiment dans son cycle de déploiement. Par exemple, dans ton Terraform, tu vas avoir une étape qui va vérifier que ton security group correspond bien aux règles de sécurité en vigueur. Déjà, des choses comme ça. Même si je suis d'accord avec toi, le niveau en plus, c'est d'avoir des pentests réguliers ou d'avoir du coup des solutions de bug bounty qui soient automatiques. Mais du coup, voilà, c'était pour préciser du coup ces choses-là.
Et Erwan, qu'est-ce que tu repenses ?
Ouais, alors c'est toujours, malheureusement, ça arrive de relativement fréquemment, ce genre de problème. Ce qui, j'imagine qu'ils ont fait des post-mortem de leur côté pour savoir comment cette erreur de config a pu arriver. Mais effectivement, tant qu'il y a de l'humain dans la boucle, c'est sûr qu'il y aura des problèmes. Après, déjà, même sans arriver à des process très compliqués, le fait de review, le fait d'avoir des tests, donc effectivement, avec ce que tu décrivais, Damir, en complément du Terraform pour valider que les security groups sont bien idoines à ce qu'on attend, etc. Ça semble être la première étape pour arriver vers quelque chose de bien sans trop se prendre la tête. Et puis après, moi, ce que je trouve toujours étonnant, c'est que moi, je travaille pour une start-up qui fait du SaaS. Et en fait, on travaille essentiellement avec des grands comptes qui achètent notre service. Et du coup, à chaque fois qu'on signe un nouveau deal, quasiment tous les... À chaque fois, on prend un audit de sécurité, alors qu'ils sont plus ou moins pointus et plus ou moins, avancés. Mais du coup, nous, on a des audits assez réguliers comme ça par nos clients. Et donc, j'imagine que si à notre échelle, on a ça, effectivement, des boîtes comme Decathlon, elles devraient aussi se forcer à faire des... Surtout que... Un service ouvert vers l'extérieur qui ne devrait pas l'être, j'imagine que c'est pas si compliqué que ça à spotter et ça vaut le coup d'avoir des tests réguliers de ce genre.
Ouais, je suis assez d'accord. Ça vaut le coup de faire des tests réguliers et des tests automatiques. Mais peut-être qu'on en parlera justement dans un futur épisode des tests d'infrastructure. Alors, on va s'attaquer au gros de l'épisode. On va réfléchir, on va vous donner nos tips et nos conseils sur deux questions qu'on nous a posées. Donc la première, c'est comment est-ce qu'on reste à jour dans notre métier qui évolue sans cesse, puisque les technologies, elles évoluent. Il y en a une nouvelle qui sort pratiquement chaque mois, on va dire. Et la deuxième question qui est très très proche, c'est comment est-ce qu'on suit le rythme des technos et comment est-ce qu'on se forme et comment est-ce qu'on ne se sent pas dépassé dans notre métier. Du coup, quand on pose ces questions-là, il y a deux choses qui me viennent en tête. La première, c'est la veille, comment est-ce qu'on fait sa veille. Et la deuxième, c'est comment est-ce qu'on se forme. Donc, ce que je vous propose, messieurs, c'est qu'on discute d'abord de la veille et que vous nous expliquiez un petit peu comment vous faites pour suivre l'actualité, quelle est votre méthode, quelles sont vos sources. Alors, pour structurer un peu, je vais vous poser la question de où est-ce que vous cherchez des informations sur votre veille, comment est-ce que vous faites. Damir, toi, comment est-ce que tu fais? Où est-ce que tu vas pour suivre l'actualité?
Alors moi, comme je pense beaucoup de tech passionnés, je me suis fait un peu toute une liste de choses que je check quasiment quotidiennement. Donc il va y avoir bien sûr tout ce qui est Twitter, LinkedIn et encore LinkedIn de moins en moins. Après, je vais check le journal du Hacker et du coup Hacker News qui est la version anglaise. Et ensuite, je vais aussi faire un truc, deux choses qui sont... qui m'aident beaucoup. La première chose, c'est que j'ai un flux RSS que je me suis constitué avec une instance fraîche RSS que j'auto-héberge. Et la deuxième chose, c'est tout simplement, si vous connaissez peut-être pas, c'est Reddit. Moi, je suis inscrit sur Reddit et je me suis fait en fait des méta Reddit où dedans j'ai tous les threads sur des technos qui m'intéressent ou des sujets qui m'intéressent comme le DevOps, le conteneur, etc. Et en fait, je peux ainsi me constituer des feeds réguliers, des feeds automatiques sur un ensemble de technos et de subreddits. Et du coup, ça me permet de suivre assez bien l'actualité. Globalement, je suis comme ça. Après, il y a aussi une autre chose qui est assez commun à beaucoup d'entreprises, c'est que dans mon entreprise, on a une solution de chat qui est Slack pour pas ne la citer, et on a du coup un chat, on se partage un peu les actus qui sont intéressantes, on échange dessus. Donc mine de rien, c'est assez intéressant. En plus, on a des personnes, du coup, des collègues avec qui on peut échanger, un peu challenger dessus, dire est-ce que tu as testé ça, qu'est-ce que tu en penses dans tel contexte. Donc c'est assez cool. Et je pense aussi important dans la veille de faire une veille qui soit réelle, c'est-à-dire pas juste de lire des news, mais de se poser des questions, de se challenger, d'arriver sur un nouveau projet, de se dire bon, je pourrais faire avec la techno là que je connais déjà, mais il y a peut-être une techno qui est plus adaptée et plus puissante. Je peux peut-être la tester là, c'est peut-être une occasion de faire un petit POC, un petit test dessus et voir si c'est concluant. Donc je pense voilà, qu'il y a cette idée de challenger et après, bien sûr, comme je dis, les différentes solutions que j'utilise pour me tenir à jour. Après, je pense qu'on a tous nos petites subtilités. Toi, Erwan, par exemple, c'est quoi tes petits tips et petites astuces secrètes?
Bah, ça rejoint quand même pas mal ce que tu décrivais sur Twitter, Hacker News. Alors Reddit, je tombe dessus quand je cherche des choses, mais c'est effectivement pas un truc que je suis activement. En tout cas, pas de la façon aussi assidue que tu as décrit. Il y a pas mal de blogs tech d'entreprises diverses qu'on peut suivre. En plus, on a de la chance en France, il y en a pas mal qui publient des articles assez intéressants et des retours d'expérience. Et du coup, je peux parler d'un service que je trouve rigolo, c'est un ancien collègue qui le fait en plus, qui s'appelle Curiosity. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il agrège tous les articles des blogs tech français, et toutes les semaines, on reçoit un petit mail avec 5-6 articles qui est pertinent, et je trouve que c'est pas mal pour compléter justement cette veille du quotidien qu'on peut faire avec les différentes sources qu'on a citées. Moi, je rajouterais un point qui est d'échanger avec des pairs. Donc que ce soit, par exemple, quand on est sur Paris, on a la chance, il y a pas mal de meet-up assez variés. Mais du coup, pouvoir échanger avec des pairs sur les projets sur lesquels ils travaillent, sur les derniers problèmes qu'ils ont rencontrés, les derniers trucs qu'ils ont testés, etc. C'est pas mal aussi pour se tenir au courant. Et toi, Christophe, tu fais comment ?
Moi, ça se rapproche un peu de ce que vous faites. Mes sources principales, c'est Twitter, LinkedIn, Human Coder News aussi, et le journal du hacker, et surtout le blog de GitLab, puisque je fais beaucoup de GitLab, en fait. Et l'échange entre pairs, je le fais sur la communauté des compagnons du DevOps. Du coup, ça nous permet d'échanger aussi, puisque il y a quand même pas mal de choses que je découvre sur le forum. Je vais jamais sur Reddit, j'avoue, je suis pas du tout. Et alors, comment est-ce que je fais tout ça? Parce que du coup, ça fait beaucoup de sources. Il y a plein de sources que j'ai pas citées. Dans les descriptions du podcast, on vous mettra des tonnes de sources. Moi aussi, J'ai un lecteur de flux RSS, fraîche RSS auto-hébergé, qu'on partage en fait entre les membres de l'Hydra. Et là-dedans, on met tout ce qui est article non qualifié, c'est-à-dire article pas encore lu. Après, on les lit. Alors, comme on est plusieurs, on a la chance de pouvoir séparer le travail. Et une fois qu'on a qualifié un article et qu'il nous plaît, on le met dans Wallabag, qui est un gestionnaire de marque-page libre et open source, et qu'on peut partager. Donc, ce qui fait qu'en fait, dès qu'un article est dans Wallabag, c'est que l'un de nous l'a qualifié et qui correspond à ce qu'on fait. Et en dernière partie, moi, ce que je fais aussi, c'est que quand je lis un article intéressant, je prends des notes et je les tiens à jour dans une base de notes partagée, dans laquelle je peux faire des recherches dans le texte, dans les tags que je mets sur mes notes. Et ça me permet vraiment d'avoir une base pour après pouvoir créer du contenu, parce que comme je crée aussi quelques articles, du coup, ça m'évite d'aller relire à chaque fois l'intégralité des articles. J'ai juste à reprendre mes notes. Et puis, si je veux préciser un truc, je vais lire la partie de l'article. Et je vais aussi beaucoup en conventions et séminaires, et notamment, je peux en citer quelques-unes auxquelles je vais. Il y a le DevOps Rex, que je trouve très très bien, notamment pour la partie méthodologie, mouvement et état d'esprit, un peu moins tech, et le DevOps Day, où je suis allé l'an dernier pour la première fois, qui est beaucoup plus technique et beaucoup moins méthodologique. Et malheureusement, il n'y a pas encore assez de meet-up près de chez moi. Il faudrait que j'aille à Lyon pour avoir les meet-up, ou alors que je les organise à Saint-Étienne, mais c'est peut-être pour bientôt. Du coup, sur la veille, je pense qu'on a fait le tour, sauf si vous voulez rajouter une dernière chose avant qu'on passe à la partie formation.
C'est vrai que moi j'ai pas du tout cité, mais c'est vrai que les conférences aussi intéressant, parce que de un, on échange, comme on disait, avec des gens. C'est vrai que c'est important, l'échange, d'avoir d'autres points de vue, des gens qui ont peut-être rencontré d'autres situations. Et moi j'ai bien aimé aussi pour ça le FOSDEM, donc on rencontre des gens qui sont même d'autres pays, qui ont d'autres métiers, qui sont dans d'autres contextes vraiment très différents, et c'est très intéressant. Ça permet aussi de sortir un peu de son cadre. Des fois c'est vrai qu'on a peut-être trop tendance à rester enfermé avec les avis des gens de nos entreprises. Donc tout ce qui est conventions, séminaires, meet-up, etc., c'est, je pense, quelque chose qui est assez enrichissant aussi, même au titre humain en fait. Et c'est pour ça que c'est une méthodologie que j'apprécie pas mal aussi.
Ça me fait penser que j'ai oublié de dire quelque chose. Ce que je fais aussi, parce qu'il y a énormément de choses qui sortent et des nouveaux outils qui sortent et qu'on aura envie de tester. Moi, je me tiens un jour, comme je vous ai expliqué, mais j'essaie de pas trop tester les outils, parce que si je me mets à tester tous les outils qui sortent, je vais passer énormément de temps. Par contre, les connaître, ça me permettra de choisir et de tester le bon outil au moment où j'en aurai besoin. C'est ce qu'on appelle la connaissance ou la formation just in time. Et justement, on arrive à la partie formation. Si je sais, à un moment donné, dans un projet, que je vais devoir utiliser un outil auquel j'ai entendu parler dans un des articles que j'ai lus, je vais pouvoir reprendre mes notes et là, pour le coup, vraiment me mettre dedans et m'auto-former. Quand vous vous formez tous les deux, comment est-ce que vous faites, quel type de formation vous suivez? Est-ce que vous vous auto-formez? Est-ce que vous allez dans des formations sur place? Est-ce que les gens viennent vous former? Est-ce que vous achetez des formations à distance? Qu'est-ce que vous faites? Damir, par exemple, qu'est-ce que tu fais?
Alors c'est quelque chose qui est assez important aussi, hein, parce que c'est bien de se tenir au courant des nouveautés, mais c'est vrai que se former en profondeur sur nos métiers qui changent beaucoup, c'est très important. Alors moi j'ai plusieurs choses, donc les formations en ligne, c'est quelque chose que j'aime bien, parce qu'on peut consommer à notre rythme, on peut vraiment s'organiser comme on veut. Donc pour ça, moi j'ai globalement deux sites, après je suis pas fermé. Ça va être Open Classroom, donc qui est vraiment une référence en France, hein, je pense, qui est anciennement du coup le site du zéro, pour les plus vieux d'entre nous qui l'ont connu à cette époque. Et ensuite, j'ai un site que j'utilise depuis pas si longtemps, qui est Udemy, qui a un très gros catalogue de formations, pour le coup, avec des vidéos, et que je suis pas mal. Il y a beaucoup de promos, donc souvent il y a moyen de trouver des cours assez, pas trop chers, et de les acheter à ce moment-là, et peut-être de les voir plus tard. Je dois avoir une vingtaine de cours que j'ai achetés depuis le début pour pas très cher, et au gré de mes envies, en fait, j'ai du coup un backlog de cours auquel je peux me mettre. Donc ça, c'est les deux gros moyens que j'utilise, vraiment plus à titre personnel, en fonction de mes envies. Et après, s'il y a des besoins professionnels, des choses comme ça, c'est assez classique. Je remonte à mon entreprise que j'aimerais bien te former sur une techno, et globalement, bon, on m'organise une formation avec un organisme dédié qui connaît bien la techno. Donc ça, après, c'est un peu aussi une chance, hein, que j'ai de pouvoir demander à avoir plus ou moins directement ça. Donc c'est assez cool, mais globalement, c'est le fonctionnement que j'ai. Et après, toujours pour se former dans l'auto-formation, ce qui marche bien, c'est aller regarder la doc, essayer de l'installer sur serveur, débugger, tomber sur des forums, tomber sur des articles de blog de gens personnels ou d'entreprises, et voilà, tester comme ça, mettre en place. Et on apprend aussi beaucoup de choses comme ça, mine de rien. Donc ça, globalement, c'est, on va dire, mes trois axes méthodologiques pour me former. Après, je sais pas toi, par exemple, Erwan, ce que tu utilises pour t'auto-former sur des technos.
Non, mais c'est bah, Open Classroom, moi, je suis assez d'accord, je trouve ça pas mal. J'en ai pas fait beaucoup dessus, mais l'année dernière, grâce à mon table, j'ai pu en faire deux, et je trouvais que c'était pas trop mal et assez didactique. Et comme tu dis, le fait de pouvoir faire à son rythme et quand même bénéficier d'un accompagnement, je trouve que c'était pas mal. Sinon, effectivement, l'auto-formation avec le tryhard et en backup Stack Overflow, je pense que ça parle à tout le monde. J'ai le souvenir d'avoir fait il y a quelques années pour les besoins d'un taf, une formation sur PostgreSQL que j'avais trouvé vraiment bien où j'étais ressorti vraiment avec pas mal de réponses à mes questions. Et du coup, je pense que dès qu'on touche à certains sujets un petit peu pointus où la doc ne suffit pas toujours, pouvoir bénéficier d'un accompagnement avancé avec des gens qui sont proches du projet, committeurs ou experts, ça a quand même pas mal de valeur.
Alors du coup, chez nous, il y a plusieurs voies. Alors en effet, comme vous l'avez dit, il y a l'auto-formation, on peut lire les docs. L'avantage, c'est qu'on peut tester. Le désavantage, c'est que c'est super long. C'est comme ça que j'ai appris OpenShift. J'ai mis des années avant d'apprendre OpenShift. Donc c'est bien de pouvoir parfois se reposer sur quelqu'un qui a déjà essuyé les plâtres, on va dire. C'est pour ça que les formations sont plutôt pas mal. Si je continue dans l'auto-formation, il y a aussi, moi je me forme de temps en temps sur YouTube, notamment avec des chaînes américaines ou en français, on a aussi des chaînes comme Xavki et CockAdmin qui font un bon petit travail, je trouve, et surtout pour les néophytes, c'est vachement bien. Et alors, j'utilise aussi GraphicArt, alors c'est en effet plus pour les développeurs, enfin j'utilisais parce que je n'en ai plus vraiment besoin maintenant, mais notamment j'envoie quelques vidéos à mon apprenti pour certains trucs un peu pointus qu'il doit apprendre, et c'est plutôt pas mal. Et en formation à distance, comme tu disais Damir, l'intérêt c'est que vraiment on peut apprendre quand on veut, à son rythme, on peut revenir aussi sur les parties qu'on n'a pas suivies. L'autre avantage, c'est que le contenu, il est mis à jour avec les évolutions techniques, si le formateur le fait évidemment. Et c'est aussi quelque chose que j'envisage de faire, justement, travailler sur des formations moi-même. C'est pour ça que je me pose toutes ces questions-là sur la formation. D'ailleurs, si vous voulez me proposer des formations, enfin en tout cas si vous voulez me dire quel type de formation vous intéresse, vous pouvez le dire dans le questionnaire que je vais laisser en commentaire. Par contre, Damir, t'as cité Udemy, et moi je sais pas, j'ai un problème avec Udemy, c'est le prix de leur formation justement. Les formations sont tellement peu chères que je me dis, psychologiquement dans ma tête, c'est tellement c'est pas cher, est-ce que la formation elle est de qualité, est-ce que le formateur il va prendre le temps de faire une bonne formation, parce que finalement il doit gagner des clopinettes, enfin c'est peut-être... c'est peut-être pas vrai, mais en tout cas c'est l'idée que moi j'en ai. C'est quoi ton retour justement sur les formations Udemy que t'as suivies?
Alors moi du coup c'est un truc, j'étais un peu du même avis que toi. Une fois j'ai vu vraiment des promos qui étaient intéressants, je dis bon bah pour 15€ ou 20€ je vais tester, on va voir. Globalement les formations que j'ai faites sont plutôt correctes, c'est pas des trucs extrêmement ouf, c'est pas des trucs mauvais. Et après ça dépend aussi du type de formation, c'est toujours pareil, si on prend les formations les plus vendues ou les plus mises en avant, elles sont rarement mauvaises. Après si on va chercher un peu plus dans le fond du panier, on risque d'avoir des petites déceptions, des grandes déceptions. Donc pour l'instant ça va, j'ai pas eu vraiment de grosses déceptions, j'ai eu des formations qui m'ont vraiment surpris positivement, donc c'était assez intéressant. Après je pense que du coup Udemy, j'ai l'impression, après ça c'est mon ressenti de ce que j'en vois, c'est qu'ils jouent vraiment sur la masse, et c'est ça qui leur permet de faire des grosses promos et d'avoir des gens qui ont quand même des revenus. C'est qu'ils font, ils doivent en vendre des masses parce que c'est pas cher, tu vois ça, tu te dis que tu vas l'acheter, tu vas pas, il y a plein de gens qui vont pas forcément le suivre, donc ils doivent vraiment vendre des masses. Et en plus de ça, Je pense qu'il y a aussi le fait que la plupart, j'ai l'impression, ça c'est encore une fois à confirmer sur la masse, bah c'est pas leur principale activité, les formations, c'est quelque chose qu'ils font en plus sur des technos qu'ils connaissent, plutôt qu'avoir un blog où ils vont donner, bah, par exemple, tu as un blog sur GitLab, plutôt que donner un peu les évolutions de GitLab et ce que tu en penses, ils vont plutôt faire une formation et ça permet de monétiser un peu et d'avoir un contenu un peu sympa et mis en forme. Donc je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. Après, je suis pas rentré dans les détails et les méandres du site, quoi, mais moi, ça c'est mon ressenti dessus.
Erwan, tu voulais rajouter quelque chose sur le prix des formations Udemy ou
Non, je connais pas suffisamment bien pour donner un avis pertinent là-dessus, mais du coup, j'ai noté d'aller regarder à quoi ça ressemblait et tout.
Au niveau des formations en ligne, il y a aussi, on a tendance à l'oublier, FunMOOC, c'est vraiment bien parce qu'en fait, c'est des cours universitaires. Donc ça, c'est pareil, c'est non, c'est même pas comme les autres en fait. C'est clairement des cours universitaires complètement gratuits, donc on peut se connecter, suivre un MOOC. Le désavantage du MOOC par rapport à la formation distancielle vidéo telle qu'on vient de l'aborder, c'est que du coup on doit prévoir de suivre le cours pendant le moment où c'est fait, parce que pendant le moment où c'est lancé, on suit le cours petit à petit, et en plus on a l'aspect forum et discussion entre les apprenants qui est vraiment intéressant. Ça, pour le coup, c'est quelque chose qui c'est une contrainte par rapport à la formation à distance. Avoir un forum comme ça en lien avec les formations à distance, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ou qui pourrait vous aider tous les deux? Sur FunMOOC, il y a un point supplémentaire qui n'est pas dans les autres. Enfin, si, dans Open Classroom, il y a aussi un peu. C'est que tu as un aspect communautaire entre les personnes formées. Et moi, c'est comme ça aussi que j'envisage mes futures formations, c'est-à-dire la partie vidéo et puis la partie privée sur le forum où les gens peuvent discuter entre eux et puis peuvent discuter avec moi aussi sur la formation, éclaircir des points qu'ils n'ont pas compris. Est-ce que cette partie-là qui est pas vraiment la formation en vidéo, mais qui a une sorte d'accompagnement et un auto-accompagnement des personnes qui se forment, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser, toi, en tant que stagiaire de formation.
Ouais, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. Après, bah, c'est un peu la discussion informelle entre étudiants sur comment t'as pris cette notion, est-ce que t'arrives à t'en sortir avec l'exercice, et on apprend aussi un peu des uns et des autres. Donc, c'est une partie, je pense, qui est intéressante. Et de toute façon, ça se voit, elle est sur Open Classroom, si je dis pas de bêtises. Il y avait, moi, à l'époque, j'ai connu l'époque du forum où, bah, t'allais beaucoup sur le forum après demander les avis des gens, s'ils avaient eu un blocage sur un exercice du cours. Donc, c'était assez intéressant et je pense que ça a aidé aussi un peu à progresser. Et c'est pareil sur Udemy. Il y a un système de forum. J'ai l'impression que c'est un peu sur toutes les plateformes, donc oui, je pense que c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Après, faut arriver à l'animer, c'est aussi un grand travail, mais oui, c'est quelque chose que je pense être, je dirais pas que c'est vital, mais je dirais que ça c'est un petit plus, clairement.
Ouais, c'est ce que je pense, parce que justement quand je fais des formations en présentiel c'est le côté justement animation du groupe qui est vraiment bien, et quelque chose qui existe pas à distance, et je me dis qu'en effet partager sur un forum, ça peut mettre un petit peu de d'interactivité dans le cours. Au niveau de l'auto-formation, on n'en a pas parlé, mais bientôt, en tout cas cette année, il y aura un wiki dans la communauté des compagnons. Donc là, on va pouvoir tous collectivement créer de la documentation. Peut-être de la documentation un peu plus légère ou digeste, ou aller à l'essentiel par rapport aux documentations officielles. En fait, je vous ai rajouté un petit point à tous les deux. Je me suis dit que j'allais rajouter un troisième point dans cette partie comment se tenir à jour. Je voudrais qu'on parle des certifications. Moi, j'ai un petit avis sur les certifications, mais je voudrais entendre le vôtre. Qu'est-ce que vous pensez de la certification, le fait d'être certifié? Damir, qu'est-ce que tu penses d'avoir ou pas une certification? Est-ce que c'est important pour toi? Est-ce que tu penses que ça vaut quelque chose ou pas? Enfin, bref.
Alors moi, les certifications, c'est quelque chose que je vois assez pas négativement, c'est pas quelque chose que j'aime voir en avant pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que moi j'ai connu l'époque où j'ai fait formation entre guillemets à blanc de Microsoft et c'est du bachotage, quoi. Tu vois, tu peux être mauvais dans une techno et apprendre à fond. Il y a beaucoup de certifications comme ça. Tu peux être mauvais, pas vraiment faire des choses propres en entreprise, mais si t'apprends à fond et tu taffes bien ton truc, t'auras ta certif. Après, est-ce que tu vas être meilleur que quelqu'un qui a fait ça pendant 5 ans dans une entreprise? Souvent non, malheureusement. Donc du coup, ouais, c'est un peu, pour moi, ça a pas spécialement de valeur. là-dessus. Après, pour éviter cette approche bachota, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a c'est la Linux Foundation, si je dis pas de conneries, qui a un système de format de certification qui est assez intéressant. Et en gros, tu as une plateforme web avec du coup des TP en ligne où tu vas avoir une console d'un côté de ton écran, tu vas avoir quelqu'un qui te regarde par la webcam et tu vas faire des exercices. Et du coup, ça va être vraiment des examens pratiques. Donc déjà, je trouve cette approche vachement intéressante. Après, pour vous donner totalement un avis là-dessus, je l'ai essayé. J'ai essayé de faire la certification Linux Administrator niveau 1 et j'ai eu une mauvaise expérience avec eux, notamment commercialement, où j'ai eu un bug technique quand je l'ai fait en ligne. Ils m'ont enlevé du temps sur mon examen et c'est un examen qui était très court au niveau time et je l'ai raté parce que j'ai juste pas eu le temps de le finir vu que j'avais passé 15 minutes à débugger leur soft alors que le test pour vérifier que mon PC était compatible m'a dit que tout était OK. Mais autrement, c'était le format en tout cas et l'idée me plaisait beaucoup plus que les formations classiques, ma certification classique, excusez-moi, où ça va être du bachotage. Là, c'était vraiment de la pratique, c'était vraiment des cas concrets. Et ils ont fait la même pour Kubernetes, il me semble. Et il y a Kubernetes, il y en a deux pour Linux, et il doit y en avoir d'autres. Donc je trouve que l'approche, elle est assez cool et assez intéressante. Donc je sais pas si vous êtes renseigné, par exemple, Erwan, je sais pas si t'as déjà ce que t'en penses, effectivement, de l'idée des certifications, et si tu t'es renseigné un peu sur, et si tu connais le principe de la Linux Foundation là-dessus.
Non, mais enfin sur les certifications, pardon. Si ton entreprise, par exemple, t'aide à en passer ou des choses comme ça, je trouve ça très cool. Tant mieux. Mais par contre, après c'est un point de vue personnel. Non seulement je ne cours pas après, et les personnes qu'on recrute, par exemple, si les personnes ont une certification, c'est bien, mais c'est pas le truc qui va déclencher un « waouh, il faut absolument le recruter ». Quoi. Et en tant que recruteur, je suis plus intéressé par les projets que la personne a pu faire, surtout typiquement les gens qui participent à des projets open source. J'ai le sentiment que ça démontre plus que passer certains types de formations, même si je sais qu'il y en a des très populaires et même de très recherchés. Mais en tout cas, personnellement, je suis pas un méga adepte de ce système mais par contre effectivement le système que tu décrivais de la Linux Foundation, ça a l'air vraiment pas mal parce que ça fait moins examen de fin d'année de prépa quoi, avec des espèces de cas pratiques un peu avancés, etc. Ça me paraît plus pertinent que justement l'espèce de gros QCM que tu passes pour savoir dire que t'as compris qu'il fallait mettre un load balancer devant plusieurs machines. Enfin, j'ai l'impression d'être très péjoratif.
Je vais aller dans votre sens. Je suis pas du tout certification. Je trouve que la certification, ça fige un peu les connaissances dans le temps. Et au moment où tu la passes, peut-être que tu la certifies. Pour information, moi, je suis certifié ITIL Foundation V3 depuis 15 ans. Et je saurais même plus dire ce qu'il y avait dans l'assertif, parce qu'en effet, c'est du bachotage. Le côté passer des exercices pour passer une certif Linux, je trouve ça très intéressant parce que Linux évolue finalement assez peu et l'assertif, elle doit être valable dans le temps. Et comme c'est quelque chose quand même de base qu'on utilise régulièrement en tant qu'administrateur système, pour le coup, ça peut être intéressant. Mais toutes ces certifications ITIL, DevOps, parce que j'ai appris qu'il y avait une certification DevOps, ou les certifs en cible, toutes les certifs Red Hat, je me pose quand même des questions sur est-ce que c'est pas pour rassurer les DSI des grosses boîtes plus qu'autre chose. Et en effet, quand je recrute quelqu'un, moi je lui demande clairement, déjà je lui demande ni un CV ni une lettre de motivation, je lui demande un email et son profil LinkedIn et surtout son profil GitLab ou GitHub, comme ça je peux aller voir ce qu'il fait et je peux vraiment voir s'il participe à des projets open source ou pas. Et ça, c'est pour moi, en effet, c'est aussi la première comment dire. Ça vaut toutes les certifications parce qu'on peut vraiment juger du travail de la personne.
Si je peux me permettre de rebondir d'ailleurs sur deux petits points. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'ils font pas que pour Linux, d'ailleurs la Linux Foundation, ils font par exemple pour Kubernetes. Mais moi ce que j'apprécie bien, c'est que si je vois demain quelqu'un qui est certifié Kubernetes par la Linux Foundation, je sais qu'il sait avec utiliser kubectl pour aller debug un pod et voir dans quel état il est, pourquoi il est dans cet état-là, relever une erreur, le relancer proprement, etc. Donc je trouve ça plus intéressant que savoir que quelqu'un, il a lu les stats techniques de Kubernetes et il sait me dire que Kubernetes ça fonctionne avec tel truc, etc. C'est pas intéressant pour, dans la vie de tous les jours, je trouve. Après, pour en revenir à ce que tu disais, que c'est pour que la fonction des certifications, il y a pour assurer les grandes DSI parce qu'elles se disent, ben moi je veux quelqu'un qui connaisse la techno, donc il est certifié. C'est un moyen simple, sans coût, on n'a pas besoin de lui faire de vrais tests techniques. On sait qu'il est certifié, donc il connaît un minimum la solution. Et après, il y a aussi les éditeurs qui jouent un peu dessus pour les pousser avec les différents niveaux de partenariat en disant, ben toi, ton entreprise, tu veux qu'elle soit partenaire Microsoft Premium, il faut que tes employés aient passé 5 certifs basiques, 6 certifs architectes, etc. Donc il y a aussi un jeu là-dessus qui est, on va pas se le mentir, un jeu commercial. Parce qu'ils savent très bien que si la personne, bah demain elle est formée Microsoft ou whatever, quand elle va avoir à choisir des solutions, bah elle aura été formée Microsoft, elle va pouvoir se dire, et le client va se dire aussi, ah bah lui il est formé Microsoft, on va peut-être prendre une solution Microsoft, on sait qu'il est qualifié là-dessus. Donc il y a aussi un jeu là-dessus qui est un jeu commercial qui, je pense, faut pas sous-estimer. C'est un vrai business aujourd'hui, la certification, hein. Donc voilà, je pense que c'est intéressant de garder ça un peu en tête.
Ouais, et puis en vrai, on voit que ça marche. Enfin, il suffit de regarder sur LinkedIn le nombre de personnes qui publient « Ah, j'ai obtenu la certification machin, etc. » Enfin, c'est vraiment devenu un argument fort, même de show-off et de mise en avant. Peut-être que nous, on n'est juste pas le public de ces formations, quoi.
Ah, c'est probablement ça. Après, j'avoue, en tant qu'indépendant, j'ai clairement pas le temps de passer les certifs. Déjà, me tenir à jour la veille et me former et m'auto-former, ça me prend énormément de temps. Si je devais passer des certifs en plus, mais je m'en sortirais pas. Donc, bon. Je sais pas. Je pense que les témoignages clients, en tout cas pour les indépendants, ça vaut toutes les certifs du monde. C'est mon point de vue. Je le partage avec quelques personnes et je pense que certains clients regardent plus les témoignages clients que les certifs. Du coup, je crois qu'il est temps de conclure, puis ça fait plus de 50 minutes qu'on parle. Donc je vais en profiter pour faire un appel à nos chères auditrices et auditeurs. Si vous voulez nous rejoindre en tant qu'animateur ou animatrice, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, soit en commentaire, soit le mieux c'est le forum des compagnons. Si vous voulez rejoindre pour qu'on puisse alterner les personnes qui passent sur le podcast, ce serait vraiment bien. D'autre part, si vous avez des questions à nous poser ou des sujets que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas à le dire sur question.compagnon-devops.fr ou sur le lien en description. Je vais vous repasser le micro pour un petit mot de clôture à tous les deux et je vais commencer par Erwan.
Pamplemousse. C'était très bien. Non, mais c'est intéressant. Moi, j'ai noté plusieurs trucs que je connaissais pas bien là sur les formations ou quoi, juste pour voir un peu à quoi ça ressemble, pour pas mourir bête. Et vu le système que Damien a expliqué sur sa veille sur Reddit, je vais peut-être me pencher un peu plus sérieusement sur le sujet. Donc, c'était cool.
Du coup, moi, si je devais rajouter un mot, faut pas oublier qu'on a jamais fini d'apprendre et que tout le monde peut nous apprendre quelque chose sur un sujet ou un autre. Donc voilà, toujours écouter les autres, pas forcément se dire qu'on connaît tout, toujours garder un peu les pieds sur terre là-dessus et pas oublier de toujours apprendre. C'est l'intérêt de notre métier, je pense, c'est de se dire qu'on a toujours quelque chose à apprendre de nouveau et ce qui fait qu'il est un peu pas trop monotone, on va dire. Donc voilà, continuez d'apprendre.
C'est super important ce que tu dis et je m'aperçois que j'ai oublié de dire quelque chose dans le podcast, donc je vais en profiter pour la clôture, parce que notre communauté s'appelle les Compagnons du DevOps et c'est pas pour rien, c'est parce que je me suis vraiment inspiré du compagnonnage et des Compagnons du Devoir et cette relation entre un mentor et un apprenant ou un apprenti, c'est vraiment super important. Donc si vous êtes un jeune administrateur système ou une jeune administratrice système, trouvez-vous un mentor ou une mentor. Et si vous êtes quelqu'un qui avait de la bouteille, eh ben vous pouvez toujours déjà vous trouver un mentor ou prenez un apprenti, parce que mine de rien, en apprenant à quelqu'un, on apprend nous-mêmes des choses, et puis ça nous permet aussi de changer de certains points de vue, parce que quand on s'encroûte un petit peu dans ses connaissances, peut-être qu'on a besoin d'être bousculé. Et le forum, en tout cas, c'est l'endroit idéal pour trouver un mentor ou pour trouver un apprenti. Juste avant qu'on clôture, tous les deux, est-ce que vous avez déjà mentoré quelqu'un ou est-ce que vous avez déjà un mentor ?
Alors moi personnellement oui, enfin je pense directement à deux personnes qui étaient mes chefs dans des précédentes boîtes qui m'ont énormément aidé à devenir un peu plus fort. Du coup, enfin je les appelle amicalement mes maîtres Jedi. Et là, on a recruté un junior pour l'équipe dans laquelle je suis. Et l'idée, ça sera effectivement de l'encadrer pour qu'il devienne bien plus fort que nous.
Moi, j'ai déjà eu aussi les deux cas. Donc déjà, je remercie dans toute ma carrière ceux que j'ai pu croiser, que ce soit des tech, que ce soit des maîtres de stage et d'apprentissage qui sont vraiment, qui ont toujours été là et qui ont, au-delà du côté, ce qu'on dit souvent, un peu avoir un mentor pour le côté technique, mais aussi le côté humain, apprendre à vivre en entreprise, entre guillemets, à subir aussi des fois des critiques qui ne sont pas forcément justifiées et des choses comme ça, et prendre du recul, pas forcément prendre toujours tous pour soi, c'est assez important, et savoir aussi savoir apprendre, hein, comme on le disait, c'est quelque chose qui est très important. Donc déjà c'est vraiment un grand merci à ces gens, ils se reconnaîtront. Et ensuite j'ai déjà mentoré des gens dans plusieurs contextes, et c'est très intéressant, parce que ce qui est intéressant, c'est que souvent en fait on en apprend aussi nous-mêmes en échangeant avec ces gens. C'est comme quand j'étais formateur sur du Linux, par exemple, parfois on me posait des questions, je me suis jamais posé cette question, et du coup j'apprenais quelque chose aussi, et c'est cet échange-là qui est super intéressant quand même. Donc voilà.
Moi aussi j'ai un apprenti, donc je le salue, petit Padawan, je te salue. Et on prend des stagiaires aussi régulièrement. Malheureusement, j'ai pas de mentor, j'en cherche un. Quelqu'un d'assez évolué, parce que là je sens que j'ai besoin aussi d'être challengé par un mentor. En tout cas, merci à vous deux, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Je vous dis à la prochaine fois, et à tous les auditeurs et les auditrices, je vous dis à bientôt. Au revoir.
Au revoir. Bye.
Merci d'avoir écouté Radio DevOps. La balade de diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra. Si l'épisode t'a plu, note-le. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, cela nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement beaucoup plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, le plus simple, c'est que tu rejoignes la communauté des compagnons du DevOps. Le lien est en description. À bientôt.
This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.